Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 22 mai 2024. Publication d'un rapport de WWF présentant un état des lieux de la vie sauvage dans les eaux françaises. Où en sont nos cours d'eau aujourd'hui, tandis que les pluies s'écrasent sur une partie du pays et se font bien rares sur l'extrême sud? Qu'est-ce que l'ONG WWF, l'Organisme de Fonds Mondial pour la Nature, recommande afin d'améliorer le bilan actuel? Avant toute chose, il est bon de reconsidérer les objectifs à l'échelle de l'Europe pour la qualité des cours d'eau, notamment via la Directive européenne cadre sur l'eau, puisque celle-ci ambitionne l'atteinte du bon état écologique des eaux du territoire à l'horizon 2027. 3 ans seulement avant cette dernière échéance, les résultats de ce nouveau rapport du WWF France montrent que la France ne sera pas au rendez-vous de ses propres objectifs politiques, malgré les dépenses déployées pour les politiques de l'eau, et qui sont estimées à 500 milliards d'euros depuis 20 ans. En effet, les populations d'oiseaux et de poissons d'eau douce stagnent de manière inquiétante, voire déclinent drastiquement, comme la truite, qui a perdu 40% de sa population en 20 ans. Et seulement 43% des cours d'eau et plans d'eau en France hexagonale sont en bon état écologique. Dans cette période politique plus que précaire, notamment pour traiter les questions d'écologie scientifique et de sécurité alimentaire, il m'a paru pertinent de se concentrer sur les recommandations de ce rapport qui n'avait de lien à l'époque de sa publication avec aucune entité politique actuelle. Pour commencer, ce rapport incite vivement à réaffirmer l'objectif français de préserver et de restaurer 25 000 km de cours d'eau et leur continuité à l'horizon 2030. Cet objectif, fixé en 2018 à l'occasion des Assises de l'eau, est malheureusement resté sans suite. On parle également de remettre à plat la fiscalité de l'eau pour appliquer le principe pollueur-payeur. Petit aparté. Pour vous rappeler que ce principe de pollueur-payeur peut aussi s'appliquer aux grosses industries hors milieu agricole, telles que le démontre l'État du Vermont aux États-Unis. Ce dernier se voit appliquer dès 2026 une taxe auprès des industriels ayant causé une quelconque dégradation de l'environnement et de la santé humaine. Face aux impacts majeurs des pollutions diffuses agricoles, nitrates, pesticides notamment, sur la ressource en eau, la redevance dont s'acquitte le monde agricole est aujourd'hui jugée insuffisante et donc impuissante à réparer les dégâts causés tout comme à réorienter les pratiques. Une trajectoire progressive de hausse de la redevance pour pollution diffuse est donc jugée nécessaire pour financer la transition agroécologique ainsi qu'une évolution de son assiette pour englober un maximum de polluants au-delà des pesticides comme les engrais azotés et les micropolluants. De même, qui dit agroécologie dit diversité des cultures. Ce que 400 à 500 générations de paysans avaient patiemment mis au point depuis l'essor du néolithique, jusqu'à créer empiriquement 150 000 variétés de riz en Asie par exemple. Quelques décennies à peine de modèles agricoles intensifs dominants l'ont anéanti. En France, 85% par exemple des variétés végétales et animales domestiquées ont disparu. Et ce déclin atteint même 96% pour les pommiers, largement remplacés par les variétés issues des États-Unis. Or, cette diversité culturelle est synonyme de diversité microbienne des sols. L'appauvrissement des foisonnements microbiens des sols réduit la porosité de ces derniers, et j'y viens enfin, et leur capacité à assurer l'infiltration des eaux de pluie, qui, de fait, ruissellent et gonflent à l'automne des rivières en crue. La poursuite de l'arasement des haies, retirer toutes les haies, se solde quant à elle par une augmentation de lessivage des nitrates, des phosphates, responsables de ce qu'on appelle du coup l'eutrophisation des eaux, hein, des eaux qui commencent sérieusement à être trop enrichies avec tous ces produits. On se retrouve face à des pullulations d'algues et de plantes aquatiques rendant les voies d'eau non navigables par exemple, loin, parfois très loin des terroirs agricoles. Entre 1997 et 2013, près de 10% des captages d'eau potable en France ont été abandonnés, pour cause d'excès de polluants d'origine agricole. Une eau potable de haute qualité presque pure est parfois puisée dans des nappes d'eau fossiles à 80 mètres sous terre pour arroser en été le maïs, culture écologiquement complexe puisque ses besoins en eau culminent au moment où l'on en dispose le moins. En été, la part de l'agriculture dans la consommation totale de notre pays s'élève ainsi à 85%. Pour autant, malgré cette consommation importante de maïs notamment, il n'est pas possible de condamner la pratique du pâturage en tant que telle. Au niveau écologique, dans des conditions où l'élevage n'est pas intensif, celui-ci permet une large contribution à la biodiversité des espèces et des écosystèmes, notamment en gardant certaines zones stratégiques en prairie. À l'échelle du monde, la dégradation de plus de 50% des milieux pâturés sont grandement liées à une baisse de la fertilité et des nutriments du sol, à l'érosion, la salinisation et le compactage du sol. Tout cela contribue à la sécheresse, aux fluctuations des précipitations et à la perte de biodiversité, tant en surface qu'en profondeur. Parmi les autres recommandations développées, on peut citer la systématique protection des zones humides. On y pense bien. Et leur déclinaison dans les documents qu'on appelle de planification, donc les documents à l'échelle soit de la commune, soit du territoire du département, où on va essayer de se projeter dans quelques années en ayant des objectifs de développement qui soient cohérents avec notamment le développement durable. On parle également de déployer des paiements pour services environnementaux, les PSE, en l'accent sur les secteurs les plus sensibles au plan environnemental. L'idée, c'est de commencer par les zones humides et les têtes de bassin versant. Cet outil permet de rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs pour des actions portant sur la gestion des structures paysagères, les haies, les mares et bien d'autres, et l'amélioration des pratiques agricoles. Donc il n'est pas seulement question d'appliquer un principe de pollueur-payeur, mais il est également question de valoriser toutes les actions en faveur de la biodiversité, notamment des cours d'eau. En dernier lieu, on parle d'élaborer un plan d'action national en faveur de la préservation et de la restauration des prairies permanentes, qui sont des zones essentielles au développement des espèces aquatiques. Un des moyens d'y parvenir est le maintien d'une activité d'élevage extensif. Donc ce fameux élevage de petite envergure qui permet une rotation dans des zones sans pour autant condamner le sol et la végétation qui y réside. Et bien entendu, réviser dès 2024 le plan stratégique national qui décline la politique agricole commune en France pour en faire un levier d'une transition agroécologique d'envergure, pour maintenir et développer une agriculture favorable à la biodiversité et la protection de la ressource en eau, élément vital à tout être humain, dans les secteurs sensibles. Il convient de mieux flécher les plus de 9 milliards d'euros qui sont alloués chaque année aux 400 000 bénéficiaires de la PAC. Ceci passe notamment par un meilleur soutien aux revenus des fermes qui engagent la transition, à l'exemple des agriculteurs biologiques ou encore des systèmes d'élevage herbagés favorables au maintien des prairies dans les milieux humides. Au-delà des recommandations habituelles, comme ne pas laisser les robinets inutilement ou privilégier les douches au détriment des mains, il y a un geste à la portée de tous, mais auquel on pense moins. manger autrement. Aujourd'hui, les cultures les plus gourmandes en eau sont celles destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, que nous consommons sous forme de viande. En somme, bien qu'au premier abord le lien de cause à effet ne saute pas aux yeux, en mangeant moins de viande et en privilégiant des produits d'élevage de plein air et nourris à l'herbe, vous contribuerez à une meilleure gestion de la ressource en eau, à l'échelle mondiale. Jacques Tassin, un écologue au Centre de coopération internationale en recherche pour le développement et auteur d'Agriculteur, refonder l'agriculture au service de tous, exprime dans ce dernier ouvrage une autre vision de l'agriculture, en se basant sur les acteurs, ou plutôt les actrices de celle-ci. Selon la FAO, dans les pays en développement, l'alimentation est, à hauteur de 70%, le fruit de l'activité agricole féminine. Le monde rural reste cependant régi par les hommes. De ce constat, cet écologue pose les questions suivantes. Qui s'aventurerait à prétendre que les femmes, pour peu qu'on en reconnaisse la souplesse et la créativité dans le monde agricole, s'avèrent particulièrement bien placées pour rétablir cette alliance entre anthroposphère et biosphère, entre le monde humain et le restant du vivant, dont notre monde a tant besoin? Qui, au bout du compte, consentirait à désinvibiliser la part fondamentalement sensible, vivante et féminine du geste agricole? Depuis l'origine de l'agriculture au néolithique, avec les grandes divinités telles que Déméter et sa fille Perséphone, incarnant le soin aux vivants, la femme paysanne apparaît pour cet auteur comme une figure de l'ombre, pourtant majeure dans la transition des pratiques. Que diriez-vous d'emprunter une autre route à la recherche d'un imaginaire qui déroge à nos lois du réel? Osons un instant tendre la feuille à un récit fantastique. Pandora.
Pandora vivait seule, dans un monde en ruine. Avec tout ce dont les gens ne voulaient plus, elle avait construit une maison qui ne ressemblait à aucune autre. Mais personne ne lui rendait jamais visite. Alors Pandora passait le temps en réparant ce qui pouvait l'être. Grâce à elle, les choses perdues et oubliées reprenaient vie. Et puis un jour, un drôle d'objet tomba du ciel. Il était cassé, mais Pandora ne savait pas le réparer. Elle le mit dans un endroit bien douillé et veilla sur lui toute la nuit. Il était un peu faible au début. Au fil des jours, il reprit des forces. Il put sautiller, puis voler sur de courtes distances. Bientôt, Pandora ne pouvait plus le suivre. Mais il revenait toujours, lui rapportant des cadeaux de ses lointains voyages, jusqu'au jour où il ne revint pas. De nouveau, Pandora se retrouva seule. Elle crut que son cœur allait se casser. Jour après jour, le monde reprit, peu à peu, des couleurs. Un matin, réveillée par la douceur du soleil, et par le chant d'un oiseau, Pandora ouvrit les yeux sur un monde plein de vie.
Aspirer à un monde des possibles, où une vie stable avec du temps libre et un pouvoir d'agir sur le monde, serait une alternative, accessible à tous, paraît encore éloignée pour beaucoup. Pourtant, le 2 mai dernier, à Paris, l'espace d'un instant, ce qui paraissait impossible, a revêtu d'autres couleurs. Je vous livre un extrait de cette rencontre organisée par Reporter avec Camille Etienne, une activiste en écologie, icône montante d'une jeunesse qui se pose des questions. Le thème proposé de cette rencontre était « Quel monde souhaitons-nous ?»
À partir de quand on a accepté que le bonheur soit devenu un privilège ? À partir de quand on a accepté que d'avoir des grandes aspirations, c'était quelque chose qui venait après des besoins dits primaires. Et donc, quand vous m'avez posé cette question de quel monde voulons-nous voir et dans quel monde voulons-nous vivre, c'est quelque chose que j'appréhende parce que, en réalité, je le vis tous les jours. C'est-à-dire que pour moi, il se crée. Je suis quelqu'un fondamentalement ancrée dans l'action. Et je n'ai pas envie de me dire voilà à quoi ça va ressembler demain. J'ai de l'espoir pour demain. Je me dis aujourd'hui, je veux montrer. Cet espoir, il s'incarne dans le fait que je peux montrer que ça peut être différemment, qu'on peut sortir de notre impuissance. Et donc, la chose la plus grande pour moi dans ce fameux monde que je souhaite à ces personnes en 2050, c'est un monde où on peut se sentir libre et surtout libre d'être puissant. Et de retrouver, c'est peut-être la chose fondamentale, c'est ça, de se défaire de cette sensation que le monde passe malgré nous, qu'on est condamné à une existence, qu'en fait on n'y peut rien, que d'autres décident pour nous et qu'on n'a aucune prise et aucune emprise sur ce qui se déroule devant nos yeux. C'est un monde dans lequel on peut décider, vraiment. Et que le peuple, les gens, se sentent en capacité de décider leur existence et pas seulement qu'ils sont victimes de choix qui les écrasent et qui sont pris pour eux et non par eux. Comment est-ce qu'on montre d'autres récits, d'autres héros? On va raconter d'autres histoires dans ces endroits-là. On va montrer que l'activisme, ça marche, qu'on peut reprendre une forme de pouvoir, qu'on peut faire changer des lois, qu'on peut inverser des rapports de force, qu'on peut arrêter une industrie destructrice comme l'exploitation minière des fonds marins, qu'on peut faire en sorte que les Français et les Françaises, quand ils se font à manger dans une poêle, ils risquent plus potentiellement d'avoir des cancers parce qu'on s'est soulevé, parce qu'on a réussi à travailler, y compris avec des travailleurs de l'usine elle-même de Tefal, pour renverser le truc et faire en sorte qu'il n'y ait plus de polluants éternels. Bon, alors, on n'a pas vraiment gagné sur les poêles, on a gagné sur tout le reste, mais c'est loin d'être fini. Sans contrôle. Et ensuite, c'est à nous de prouver qu'elles sont toxiques. C'est à nous de prouver qu'il faut les retirer et de batailler pendant des années. Il y a un dicton qui dit on met 90 jours pour mettre une substance sur le marché et plus de 20 ans pour l'en retirer, quand bien même on savait depuis des années qu'elle était dangereuse. Et donc, moi, j'aimerais qu'on pense à l'envers. De la même manière sur la production, j'aimerais qu'on se dise on organise notre modèle productiviste. Et il y a tellement d'emplois à créer, en effet. Il y a tellement de secteurs dans lesquels je crois qu'on doit réindustrialiser la France. On doit réouvrir des usines sur le fret, sur le rail, dans l'agriculture. On va avoir besoin de main-d'œuvre. Mais je préférerais qu'on parte de la question en se disant quels besoins on définit. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture ou est-ce qu'on a besoin de mobilité? Est-ce que donc si c'est la mobilité le besoin, est-ce qu'on peut y répondre en développant à fond les transports en commun? Moi je crois que le conflit est important, on a besoin de ne pas être d'accord, on a besoin de débat, on a besoin de... Ça se décide, on ne peut pas décider comme ça d'un chemin qui embarquerait tout derrière nous. Je pense qu'il y a un certain nombre de socles, d'idées, de valeurs sur lesquelles on peut être d'accord. Et après ça se crée dans le réel en fait, cet imaginaire, le monde qu'on veut voir demain, tout ça... Il n'y a pas un programme établi. Je crois qu'on en a rappelé quelques ébauches. Et après, ça se fait avec nos mains, quoi. Ça se fait dans la matière. Et ça, c'est sain pour moi qu'il y ait des débats. C'est sain qu'il y ait du conflit. Que l'espace politique soit une forme d'agone. Que de ça peut naître des idées qui sont imprévisibles. Et que précisément, on peut faire la phrase d'Hugo qui est d'étonner la catastrophe. C'est parce qu'il y a du débat qu'on arrive à étonner la catastrophe. C'est parce qu'il y a du désaccord qu'on arrive à avoir des idées qui sont un peu plus grandes que nous.
Où est le fleuve et la mer? Où est la tour?
Si la joie fait barrage à la destruction, alors l'émerveillement de ce qui vit au plus proche de nous est peut-être un premier pas vers un nouvel imaginaire commun.
Mes lunettes plastiques, matin je sors, couvert de plumes, il n'y a plus de porte, bizarre et pratique, temps clair dehors.
Tu y as pêché où, baobab, acajou? Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un passionné du vivant, avec cette question d'actu, cuisiner aux petits oignons.
Palissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.